Comme un mardi, polémique avec Géopolitique de la Nation France aux Presses universitaires de France, le géographe Yves Lacoste et le géopolitologue Frédéric Ancel signent un ouvrage à deux pour alerter sur les périls intérieurs comme extérieurs qui menaceraient notre nation. Leur diagnostic est loin de faire l'unanimité et leur analyse tout aussi loin de faire consensus. Ils viendront s'en expliquer à partir de 12h55 dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, dans l'intimité de Louise Bourgeois, retour ce midi sur l'œuvre de cette sculptrice plasticienne franco-américaine hors norme qui n'a cessé de manipuler son histoire comme elle l'aurait fait du plus malléable des matériaux sculpturaux, dit d'elle le critique d'art Robert Storr, auteur d'une belle et vaste monographie sortie fin septembre à redécouvrir. Bienvenue à tous sur France Culture et sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Les choses n'ont pas besoin d'être noires et blanches. Les choses sont beaucoup plus intéressantes si elles sont grises et si elles sont subtiles. Moi, je veux inventer quelque chose. Je veux inventer une écriture et des signes. Je veux inventer des signes.
Louise Bourgeois, mystérieuse, magnifique, effrayante, 6 ans après sa mort, la Française devenue américaine, sculptrice et plasticienne, Louise Bourgeois continue à intriguer. Retour sur œuvre ce midi et sur la personnalité atypique de cette femme à l'occasion de la publication aux éditions Hazan d'une monumentale monographie qui lui est consacrée, Louise Bourgeois, géométries intimes. Un ouvrage, somme, que l'on doit au critique d'art Robert Storr, directeur de la Yale University School of Art, ancien conservateur en chef du MoMA, qui propose une vision transversale de l'œuvre de l'artiste à travers plus de 900 illustrations. Et là, vous me direz, on commence par quoi ? Eh bien, on commence par présenter nos deux invités, le romancier et galériste Jean Frémont, bonjour, qui bonjour. A scénarisé un monologue intérieur et littéraire de Louise Bourgeois aux éditions POL. Calme-toi, Lison, c'est paru au début de l'année. Galeriste à New York, vous l'y avez côtoyé, Louise Bourgeois, et vous avez contribué à la faire connaître dès les années 80. À Libération, vous racontiez cette année, quand je l'ai rencontrée, elle savait qu'elle était une grande artiste, mais elle n'était pas reconnue, tandis que moi, je dirigeais une galerie importante, ce qu'elle savait. Ensuite, le rapport de force a changé, mais nous avons conservé notre intimité. À vos côtés, Maki Xenakis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sculptrice et écrivaine. Vous vous apprêtez à publier un ouvrage chez Actes Sud où vous reviendrez sur la relation personnelle, intime, avec Louise Bourgeois. Et vous avez écrit « Louise Bourgeois, l'aveugle guidant l'aveugle ». Il y a longtemps déjà, le livre est paru en 98. Un retour sur les lieux de son enfance et du même coup, une plongée dans son œuvre et les mystères du processus de création. Elle vous a guidé sur ces lieux à distance, de la maison disparue de Choisy-le-Roi au lycée Fénelon où elle a étudié. Vous les avez photographiés, ces lieux, et elle les a quelque part sous-titrée, puisqu'elle les a racontées, expliquées, commentées auprès de vous. Intime, c'est le qualificatif qui revient le plus souvent pour parler des différentes approches de son œuvre, de la relation que vous avez pu avoir l'un et l'autre avec l'artiste. Est-ce que ça cache pas une première facette de Louise Bourgeois, son côté justement peut-être insaisissable, Jean Frémont ?
Je ne sais pas si elle était insaisissable. Elle n'aimait certainement pas être réduite à une explication. Donc si on en donnait une, ou à une interprétation, ou à une facette, en effet. Alors si on donnait une interprétation, elle s'empressait de dire « Oui, c'est vous qui voyez les choses comme ça, mais on peut les voir autrement. » Elle aimait la contradiction. Mais de là à dire qu'elle était insaisissable, non. Au contraire, je dirais que elle donnait... Elle multipliait les pistes pour qu'on la saisisse, mais pour qu'on la saisisse de manière contradictoire, parce que c'était quelqu'un de complexe, et que l'interprétation simpliste ne lui convenait jamais.
C'est peut-être finalement si difficile de restituer sa voix que la réalité de la vie et de ses pensées était si compliquée à cerner. Vous avez dû peut-être, vous, quelque part, l'imaginer à travers ce monologue fictif, dont vous avez dit d'ailleurs que si elle l'avait lu, elle l'aurait probablement détesté.
Oh, je suppose, oui, j'en suis presque certain.
Parce qu'elle n'aimait pas qu'on parle à sa place ?
Mais elle aurait pu le détester, j'en sais rien, c'est difficile à dire, de toute façon on refait pas l'histoire, mais non, ça c'est autre chose, c'est un livre d'imagination, évidemment à partir d'un modèle, mais je prétends pas que tout est juste. Maki m'a dit un jour que ce qu'il y avait de plus juste, c'était la tartine à la banane et à la sardine.
Ça, c'est un bon début,
c'est pour respecter tes...
Voilà.
Maki, une œuvre fondée sur l'autobiographie, est-ce qu'on peut dire ça de Louise Bourgeois ? Elle disait, les idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent, des pensées-plumes, des idées qu'elle attrape au vol et qu'elle fixe par le dessin avant d'en faire des sculptures, parce que la sculpture, c'est la seule chose qui me libère, précisait-elle. Elle aimait bien, ou elle jouait beaucoup, hein, avec ses angoisses, ses peurs, on dit d'une certaine manière, pour les exorciser, et elle était occupée par le doute et en même temps très sûre de son art. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ces émotions, c'est avant tout justement dans ces sculptures qu'on peut les lire ?
Je pense qu'on peut les lire dans toute son œuvre, que ce soit les dessins, les sculptures, et puis elle, quand on la rencontrait. Effectivement, ce qui l'habitait, c'était le doute, la peur, mais en même temps, elle avait une telle force et elle avait tellement compris que l'art pouvait être une catharsis et un exorcisme contre ça, que c'était sa méthode de lutter contre ces pulsions d'angoisse et de créer de la vie et une œuvre d'art d'une émotion et d'une force créatrice tout à fait exemplaire. En plus, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est inouï comment elle est arrivée dans l'histoire, comment par hasard, elle est née en 1911, elle a démarré dans un milieu qui n'était pas du tout artistique, même si ses parents étaient restaurateurs de tapisserie. Mais au niveau historique, elle a rencontré les artistes surréalistes, Giacometti au début, avant la guerre. Puis elle a été catapultée aux États-Unis parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Américain. Et là, elle s'est retrouvée dans l'autre univers artistique énorme. Donc c'est incroyable. Personne d'autre, je crois, n'a pu vivre une telle expérience.
Oui, elle est arrivée à New York en 1938, et puis la guerre est arrivée par là-dessus. Et ce qui est intéressant, je crois, aussi, c'est le fait qu'elle a travaillé, elle a créé de manière vraiment sans que personne la dérange, disons, sans que personne fasse même la moindre attention à ce qu'elle faisait, quasiment jusqu'à l'âge de 65 ans, quoi. Donc elle a eu le temps de créer une œuvre très libre, sans aucun souci de mode ou de parce que de toute façon ça n'avait pas d'importance, ça n'avait pas d'écho. Et puis le succès est arrivé brutalement, mais assez vite quand même, par la rétrospective en 1982 au MoMA, première femme à avoir une rétrospective au MoMA, hein, dans l'histoire du musée. Et puis alors, il y a 30 ans d'œuvres derrière, portées par le succès, vraiment, dans laquelle on voit que là, il n'y a plus de limite, son imagination. Tout est possible, son imagination se développe, et même les moyens techniques, ce qui compte dans la sculpture, tout de même. La suivre permet de faire des œuvres de dimensions considérables, il n'y a plus de problème d'argent pour produire, etc. Donc il y a vraiment deux parties qui s'emboîtent, qui s'enchaînent et qui lui ont permis de rebondir pour créer cette œuvre tout à fait étonnante, quoi.
Alors je pensais plutôt qu'on commencerait par l'œuvre. Et par la personnalité de cette femme, vous attaquez l'un et l'autre sur la question de la reconnaissance qui a été effectivement aussi très présente. Alors allons-y, effectivement, quand elle passe par New York, enfin de Paris à New York, elle rencontre quand même dans ces années-là un grand nombre d'artistes, que ce soit Fernand Léger qui a été son professeur, André Breton, Miro, Le Corbusier. Comment elle a réussi à exister comme artiste singulière dans ce monde qui était quand même assez masculin ? Comment elle a réussi à s'imposer ?
Elle n'existait pas. Moi, oui, elle m'a dit que ces gens-là venaient voir son mari, Robert, ouais, Goldwater, et elle était la petite Louison qui faisait du thé et qui donnait des gâteaux.
Oui.
À part Miro, qui s'intéressait un petit peu à elle.
Oui.
Hein, c'est
mais
ça.
Mais elle n'avait pas d'existence publique.
Il faut dire qu'en plus, à l'époque, les femmes étaient... Il n'y avait pas encore eu le féminisme des années 70, donc une femme était faite pour être une femme de... L'intérieur.
Alors que dès les années 40, elle commence quand même à produire, fabriquer, créer des œuvres qui seront très importantes. Dans la monographie qui lui est consacrée, Robert Storr souligne son exceptionnelle présence, qu'elle a peut-être su imposer par la suite. Il raconte que sa maison était véritablement un lieu de pèlerinage, qu'elle tenait des salons les dimanches après-midi chez elle.
Ça, c'est beaucoup plus tard. Hein.
C'est beaucoup plus tard.
C'est pas du tout dans les années 40.
Bien sûr.
Dans les années 40, elle travaillait sur le toit quand elle avait fini la vaisselle, quoi, en gros.
Ouais. elle faisait des réceptions, mais pour la carrière de son mari,
oui,
pas pour elle.
Oui, oui.
Et il dit qu'à ses, justement, sur la fin de sa vie, elle avait un charisme qui éclipsait presque à regret la réussite de son parcours artistique. Son statut légendaire comme témoin de l'histoire de l'art de son époque et comme l'une de ses forces motrices a pu contribuer à obscurcir ou déformer la réalité de son évolution artistique et nuire aux efforts pour comprendre et évaluer le tissu complexe que forment sa vie et son œuvre. Vous êtes d'accord avec ça ?
Il faut du temps. Il a fallu longtemps à Robert Sorr pour faire cet énorme livre. Il était, si je me souviens bien, pratiquement terminé il y a déjà quelques années, quand, juste après la mort de Louise Bourgeois, on a retrouvé une grande quantité de papiers intimes, de journaux, de lettres avec son psychanalyste, de choses comme ça. Et donc Robert Sorr a repris ça en compte pour terminer son livre. Mais il faut du temps pour comprendre une œuvre aussi complexe et une œuvre qui a en effet subi les difficultés du temps pour une femme. Il y avait quoi ? Il y avait Georgia O'Keeffe et Louise Nevenson à New York qui étaient connues, ça s'arrête là. Hein ? Jusqu'en 1970.
Oui, c'était. On oublie disons. À quel point même les surréalistes, pour eux, la femme était une muse, elle n'était pas une artiste. Donc, même si elle rencontrait tous les surréalistes avec son mari, il la considérait comme une muse, mais pas comme une artiste à part entière. Donc, c'est. Même si aujourd'hui on souffre encore de ça, les femmes artistes dans ce milieu-là, on ne se rend pas compte à quel point à l'époque c'était bien pire.
C'était presque inconcevable.
C'était inconcevable.
Oui.
Ouais.
L'évêque de l'insomniaque titre la monographie et leur ami du temps, on aura compris avant de trouver sa place, y compris sur le marché de l'art, avant d'être reconnu et avant que ses œuvres soient valorisées. Au début, on était très loin des ventes aux enchères qui a eu lieu récemment de la fameuse Spider de l'araignée géante en bronze créée en 97 et qui s'est vendue à plus de 28 millions de dollars chez Christie's à New York. Voilà, les débuts n'ont pas été aussi simples, on l'aura compris. Est-ce que Louise Bourgeois était révoltée ? Est-ce qu'elle était féministe ? Assurément. Est-ce que ses motivations n'étaient pas quand même avant tout personnelles, Maquis Xenakis, dans son œuvre ?
Je pense que c'était une femme d'une telle authenticité qui n'avait jamais eu la grosse tête, qu'elle soit célèbre ou pas célèbre, qui n'a jamais été aigrie au moment où elle n'était pas célèbre, qu'elle a fait son petit bonhomme de chemin dans son coin, avec le succès, avec la reconnaissance ou le non-succès, la non-reconnaissance, mais elle était déterminée à faire ça parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. C'était sa manière de vivre en créant des formes et des images, tout en connaissant parfaitement bien l'histoire de l'art, l'histoire de l'art de son époque, l'histoire de l'art ancienne, l'histoire de l'art avec son mari africaine et de l'art brut. Donc elle avait une dimension culturelle, elle connaissait extrêmement bien l'art en général et elle se situait donc géographiquement même dans un endroit particulier entre la France, l'Amérique, tout ce qui se passait dans l'art à ce moment-là de plus avant-garde. Et donc elle a construit son petit bonhomme de chemin, mais c'était une femme totalement authentique et qui est restée authentique jusqu'au bout, même si après effectivement elle a vécu presque jusqu'à 100 ans, donc à la fin il y avait des gens qui tournaient autour d'elle, mais c'était pas forcément les gens les plus intéressants.
Une œuvre dont on dit qu'elle était effectivement beaucoup plus autobiographique, autofictionnelle que psychanalytique. On va l'entendre parler d'un lieu qui lui était cher, parce que Louise Bourgeois disait aussi souvent qu'elle aimait recréer le passé. Écoutons-la.
Lorsque je suis retournée en France et que j'ai cherché la maison, je l'ai cherchée en vain, puisqu'elle avait été démolie et remplacée par le théâtre Paul-Éluard. Et évidemment, quand on constate que le passé disparaît, il y a un certain choc et il y a une certaine peine. Il est très difficile de recréer le passé. Parce que le passé a deux visages. C'est le visage positif. Quelqu'un a dit, mais Louise, c'était une jeunesse dorée. C'est idiot de dire ça. C'était une jeunesse dorée d'un point de vue. Mais c'était une jeunesse très pénible d'un autre point de vue. C'est-à-dire que, au sein de la famille, il y avait comme un virus, qui était traumatique pour nous, pas seulement pour moi, mais pour mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que nous souffrions d'une fissure dans la cellule familiale. Et cette fissure représentait, c'est bien français, était représentée par le fait que mon père introduisait des maîtresses. Ça, c'est son affaire. Mais je ne le juge pas. Mais il introduisait des maîtresses dans la maison. Et c'est là que le trauma a eu lieu.
Elle dit beaucoup de choses dans cet extrait du documentaire Louise Bourgeois de Camille Guichard, réalisé avec des entretiens avec elle dans les années 90. Et elle reparle notamment de sa maison d'enfance à Choisy-le-Roi, où en fait elle n'est pas vraiment revenue. C'est vous qui avez pris ces photos, Maki Xenakis, et qui lui avez envoyé.
Oui,
vous étiez ses yeux.
J'étais devenue ses yeux, parce qu'à partir de 89, après l'expo à Lyon, une grande expo magnifique qui avait lieu à Lyon, qui n'a eu aucun retentissement, on doit l'avouer.
Il faut dire que tous les musées parisiens avaient refusé l'exposition que je leur avais proposée. Ils se sont tous empressés de le faire quelques années plus tard, oui. Le musée après de la ville de Paris, le centre Pompidou. Mais
sur le moment, personne.
J'ai trouvé Lyon, c'est tout.
Voilà.
Lyon, Francfort.
À partir de ce moment-là, elle ne voulait,
voilà.
Elle ne voulait plus aller en France.
Il n'y a pas eu un écho dans les journaux, donc à partir de là, elle est venue en 89. Elle a dit, je n'irai plus jamais, ça suffit. Et donc c'est comme ça qu'elle me parlait au téléphone de ses lieux d'enfance et que je lui ai proposé de faire des photos si elle me donnait les adresses, et qu'on a joué à ce petit jeu de pistes où j'étais devenue ses yeux, où elle m'envoyait à chaque fois. Et c'était très émouvant parce que j'avais vraiment l'impression qu'à chaque fois elle savait l'heure à laquelle j'y allais, elle savait quand je devais la rappeler. Et elle attendait mon coup de fil, elle était très inquiète, comme si j'allais lui dire que quelqu'un était encore vivant ou quelqu'un était encore mort. Et Choisy-le-Roi, quand je lui ai annoncé que la maison avait été détruite, mais remplacée par le théâtre Paul-et-Loire, très vite j'ai dit ça. Ça l'a bouleversée, en même temps ça l'a soulagée que ça s'appelle Paul-et-Loire.
Alors elle vous a dit, Maki Xenakis, que le passé est guillotiné par le présent. Quand on constate que le passé disparaît, cela crée un certain choc, une certaine peine. Elle vous disait également, si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est vrai qu'elle n'a jamais cessé d'inventer, de recréer sa vie à sa manière, voire de réparer son passé. C'est plutôt comme ça que vous l'interprétez, Jean Frémont ?
Alors, pour rester sur la maison, puisque c'est un bon exemple, elle était en effet en train de faire une œuvre dans laquelle elle avait reconstruit cette maison en maquette, que là, c'est la maison de Choisy. Et il y a, je me souviens qu'elle m'avait dit, moi aussi, il y a un endroit là, cet endroit-là, je ne sais plus comment c'était, il faudrait aller voir, hein, monsieur Maki. Et moi, je me souviens que spontanément, je lui ai dit, mais votre souvenir est plus intéressant que la réalité, ça n'a pas d'importance, faites-la comme vous vous en souvenez. Elle s'est fâchée, elle m'a dit, mais vous n'avez rien compris, ça doit être exactement comme c'était. Elle s'est énervée comme ça. Et puis alors après, elle a en effet, il y avait juste la maison dans sa sculpture, et l'idée de la guillotine est venue ensuite. Donc elle est présentée sur cette maison elle est présentée sur une table, et devant, il y a une guillotine comme ça. Cette œuvre est presque précurseur des cellules au fond, parce que ça devient une chose dans une cage. On voit que le passé est mis à distance, enfin une image du passé est mise à distance, etc. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette obsession de, bien sûr qu'elle savait très bien que son souvenir était au moins aussi important que la réalité. Il n'empêche que elle était bloquée. Elle avait besoin de vérifier pour avancer dans son travail. Et ça, c'est caractéristique d'une façon de travailler. Enfin,
vous évoquez cette maison d'enfance, la place de l'enfance dans la vie et dans l'œuvre de Louise Bourgeois est absolument centrale. C'est ce qu'on retrouve dans vos deux ouvrages, dans ce monologue fiction et intérieur « Calme-toi, lisons » que vous avez fait paraître cette année, Jean Frémont, chez POL, et également dans votre ouvrage de photos et d'explications. Louise Bourgeois, l'aveugle guidant l'aveugle, Maki Xenakis, qui est paru chez Actes Sud il y a presque une vingtaine d'années, où l'enfance est absolument centrale là encore. Elle avait quelques comptes à régler quand même avec son père, cet infidèle. rappelle ce privilège du mâle, pour vous citer, cette figure paternelle du grand géniteur en chef qu'elle ira jusqu'à détruire dans une pièce, une œuvre qu'elle a créée, The Destruction of the Father, dans les années 70. Au contraire, elle aimait bien protéger sa mère. Hein. Elle en parlait avec beaucoup de douceur, de délicatesse, la bonté, l'intelligence, la tolérance, votre plume, Jean Frémond, jamais dupe de la situation, sa mère, face à ce père infidèle. Elle était en gros très attachée à l'une et très dure avec l'autre. Dans quelle mesure cette relation avec ses parents est fondatrice de son œuvre, Maki Xenakis ?
Je pense qu'on a tous une histoire personnelle, familiale, lourde ou plus ou moins lourde à porter. Elle a décidé d'utiliser ce matériau pour créer son œuvre. Il y en a d'autres qui le font de manière plus ou moins cachée, mais elle l'a totalement affirmé, même par provocation. Mais je pense que beaucoup d'artistes, au fond, si on va fouiller, ça vient de l'enfance, des traumas de l'enfance, de la guerre ou de pas la guerre. Et elle a pris ça comme sujet de travail durant toute sa vie parce qu'elle avait cette sensibilité tellement forte, elle était capable, on l'a vu, parler de son père et se mettre à pleurer de rage à 80 ans, à 90 oui. ans. Donc c'était pas du cinéma, c'était vraiment qu'elle était dans un état d'émotion tellement fort et qu'elle revivait tellement fortement tous ses souvenirs que la seule solution d'y échapper, c'était d'en faire une œuvre.
Mais alors, c'est tout à fait exact. Et en même temps, je voudrais minimiser ça dans la production d'une œuvre. En réalité, on a le sentiment, on est toujours sur cette idée qu'il y a la forme et le contenu, et que on donne forme à des émotions, etc. Oui, bien sûr. Et en même temps, ce qui provoque une œuvre d'art, l'artiste est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Au fond, ce qu'il veut, c'est faire quelque chose.
Est-ce qu'il va donner à voir aussi ?
Qu'est-ce qu'il va donner à voir ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir fabriquer ? Et au fond, ce qui suscite, ce qui provoque l'œuvre d'art, c'est bien sûr des traumas personnels, des souvenirs, mais aussi bien des formes qu'on voit, aussi bien des souvenirs, aussi bien des rêves, des photographies, l'histoire de l'art. Tout ça, c'est sur le même plan. Mmh. Tout ça se mélange et l'artiste puise là où il peut. Pour faire quelque chose.
C'est vrai qu'il ne faut pas réduire. Il faut pas réduire son œuvre juste à un truc personnel.
Non, mais comment on fait un retour sur œuvre de Louise Bourgeois ? On essaie quand même d'expliquer un petit peu pour ceux qui la connaîtraient moins bien que vous.
C'était tout à fait vrai, mais au même titre que d'autres choses.
Alors citons quand même la femme maison, thème central dès la fin des années 40, qui abritait tous ses souvenirs, les fameuses cellules, les cells, œuvres monumentales des années 90, avec cette idée du dedans, dehors. Elle disait d'ailleurs de ces cells que chacun traite du plaisir du voyeur, le frisson du regardeur et celui d'être regardé. Une œuvre aussi qualifiée d'assez érotique par moments, ces fameux Janus Fleury, fillette, cumule, fente phallus, pénus, qui se fait sain, la sexualité ou comment l'art de Louise Bourgeois savait sublimer quelque part la pulsion sexuelle, non ? Vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus ?
Mm-hmm. Si, on est d'accord. On est souvent d'accord.
Tellement d'accord. Vas-y.
Non, mais je pense que dans l'art, il y a la sexualité, il y a la vie, il y a la mort pour ces artistes-là. Et donc, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans un texte que Robert Storr reprend. Quand je fais une œuvre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis tout d'un coup, je vois le caractère sexuel et moi-même, j'en suis choquée, mais il est là. Et après, so what ? Et puis après, ce n'est pas que ça, mais ça fait partie de l'art et ça fait partie de mon œuvre. Mais ce n'est pas volontaire, ce n'est pas de la provocation.
Deux petites questions, il nous reste très peu de temps. Jean Frémond, juste, elle disait également, ou vous lui faites dire dans Calme-toi, lisons sous votre plume chez POL, se peut-il qu'il existe au fondement une explication à mes actes ? Je suis ce que je fais, rien d'autre, faire surgir des pleins, ménager des vides. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas cessé, et vous le racontez l'un et l'autre tout au long de sa vie, de faire, défaire et refaire, pour reprendre le titre d'une œuvre. Est-ce qu'on peut peut-être terminer là-dessus ?
Oui, mais c'est ça. Le but ultime, c'est une forme. Voilà. Une forme qui n'existait pas avant. C'est créer quelque chose, c'est ça. Il n'y avait rien, il y aura une forme. Et on parlait de formes sexuelles, ce sont aussi des formes. Un pénis, c'est une forme, comme un nez. Après tout, tous les artistes qui ont fait les portraits, ils ont toujours mis un nez au milieu de la figure. Bon. c'est aussi ça.
Maki Xenakis, longtemps incomprise, on le disait, Louise Bourgeois, figure de l'inconscient, enfance nue, ses œuvres nous parlaient quand même aussi de nous. Il faut peut-être se projeter un peu dans ce qu'elle a créé. Dans Calme-toi, lisons, Jean Frémont, vous écrivez des questions. Tu fabriques des questions en bois, des questions en fer, des questions en marbre. C'est ça qui compte. Et à partir de là, chacun d'y trouver ses réponses.
Je crois qu'il faut aller voir une œuvre de Louise. Et là, on a l'émotion et on comprend ce qui se passe.
Et Louise chantait aussi, haute comme le suffixe, paroles et mélodies de Louise Bourgeois, avec Ramon Chomata, artiste français, franco-chilien, pluridisciplinaire.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. La femme de l'anglot est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse. Et elle boursicote. Il cuisine. Et puis elle popote.
La parole et mélodie de Louise Bourgeois. Merci beaucoup à tous les deux. Toutes les références de vos ouvrages seront sur le site de La Grande Table sur franceculture.fr. Et je vous rappelle le titre de la grande monographie qui vient de paraître, signée Robert Storr, Louise Bourgeois, géométrie intime, aux éditions Azan. Juste un petit mot, qu'est-ce que vous faites vendredi? Nous, on sera au Salon d'honneur du Grand Palais pour l'enregistrement de Ping Pong à l'occasion de la grande exposition Hergé, jamais sans tatin, bien sûr, qui a débuté et qui se prolongera jusqu'à la mi-janvier. Alors si vous êtes parisien ou que vous avez envie de l'être pour l'occasion, n'hésitez pas à nous rejoindre, entrée libre et comme on dit, dans la limite des places disponibles.